France Musique.
Saskia Deville, la matinale, France Musique.
Notre invitée est soprano. Elle est née à Meaux en 1984 d'un père directeur commercial et d'une mère maître nageur. Petite, elle se rêve danseuse, bergère, poète, styliste ou journaliste. Celle qui dit n'avoir jamais décidé d'être chanteuse est entrée dans le monde de la musique par le violon avant de découvrir sa voix lors d'une sortie de classe à l'opéra. Premier prix de chant au Conservatoire de Paris, elle est nommée Révélation classique de la Dami en 2009, Révélation artiste lyrique aux Victoires de la musique classique en 2012 et puis Artiste lyrique de l'année en 2014. Elle démarre au Châtelet à l'Opéra Comique avant de devenir une habituée de la scène zurichoise. L'Opéra de Paris lui ouvre ses portes en 2015. Une aisance dans des répertoires variés, une voix légère et brillante, un don certain pour la comédie. Et pourtant, elle l'avoue encore il y a quelques mois à Guillaume Thiot, notre chroniqueur, elle avoue avoir de plus en plus le trac. Bonjour Julie Fuchs.
Bonjour.
C'est vrai ça, vous avez encore de plus en plus le trac?
Oui, mais alors depuis ma conversation avec Guillaume Thiot, j'ai des techniques qui font que quand même je...
Voilà, j'essaie. Comment est-ce que vous travaillez ça?
Bah, alors je vais vous dire la vérité, je fais de la méditation. Et du coup, ça m'aide beaucoup.
Quotidiennement?
Pratiquement.
Vous l'avez fait ce matin?
Non, il était trop tôt.
Eh bien, on va se détendre en musique alors, avec Georg Friedrich Händel, qui, le 23 mars 1743, à Londres, présenterait pour la première fois son oratorio du Messie, une œuvre que vous avez déjà chantée, Julie Fuchs?
En fait, je ne l'ai jamais chantée en entier. J'ai chanté des extraits. Mais je n'ai jamais chanté le Messie en entier.
Ça vous amuserait.
Voilà, je lance un appel.
Ah, mais voilà, mais l'appel va être entendu, je n'en doute pas. On écoute un extrait de ce Messie avec l'Académie de St. Martin in the Fields et Neville Marriner.
Oh!
the Glory of the Lord, un chœur de la première partie du Messie de Georg Friedrich Händel par l'orchestre et le chœur de l'Académie de St. Martin in the Fields sous la baguette de Neuville Marineur. Il est 8h11 sur France Musique. Bonjour Antoine Pecker.
Bonjour Saskia, bonjour à tous.
Il y a 2 semaines, vous nous parliez ici même de l'annonce du nouveau projet culturel de Bernard Arnault. Aujourd'hui, Antoine, vous pouvez nous en dire plus sur la dimension musicale de ce projet.
Alors déjà, on le rappelle, hein, Bernard Arnault a donc repris le musée des arts et traditions populaires qui est situé juste à côté de sa fondation Vuitton et qui était fermé au public depuis 12 ans. Un bâtiment appartenant à la ville de Paris et géré par le ministère de la Culture. Le patron de LVMH va maintenant confier la réhabilitation, la transformation, pourrait-on dire, hein, de ce musée à l'architecte Franck Guéry. Un projet de vaste ampleur, un coût de 160 millions d'euros, dont plusieurs dizaines de millions d'euros rien que pour le désamiantage, pour une ouverture prévue en 2020. Le ministère de la Culture apporte 10 millions d'euros à titre de compensation car l'État a d'une certaine façon laissé se dégrader le bâtiment et la ville de Paris, qui est propriétaire des murs, cède à titre gratuit jusqu'à en tout cas que le bâtiment soit à nouveau en état de marche. Important à noter, c'est directement LVMH et non la fondation qui va payer le coût du projet. Il n'y a donc pas de défiscalisation car selon une source proche du dossier, la fondation Vuitton aurait absorbé toute l'enveloppe mécénale également autorisée. Ce projet va comprendre une salle d'exposition de 650 m2, des espaces de résidence d'artistes. L'idée est de confronter dans ce projet artisans et artistes, un restaurant aussi au sommet du bâtiment, mais surtout, et c'est cela qui nous intéresse tout particulièrement, une grande salle de 2600 m2 qui sera dédiée à 2 usages, exposition et concert. C'est la première fois qu'un lieu doit réunir ces 2 fonctions. Bernard Arnault souhaitait avoir un espace pour accueillir des œuvres monumentales d'artistes contemporains. On imagine déjà les installations d'Anish Kapoor ou d'Anselm Kiefer, en complément aux salles d'exposition de la Fondation. Et en parallèle, le patron de LVMH voulait aussi une grande salle de concert pour pouvoir accueillir des orchestres symphoniques. Aujourd'hui, l'auditorium de la Fondation Vuitton se limite à la musique de chambre. C'est une petite salle et dans une acoustique plutôt sèche. Le tropisme musical de Bernard Arnault n'est pas nouveau. Il a pour femme la pianiste Hélène Mercier et lui-même joue du piano. Tout l'enjeu architectural va donc être de pouvoir créer une salle polyvalente. Le but est d'avoir 2000 personnes assises pour les concerts et 4000 debout pour les expositions. Franck Guéry travaille pour cela un dispositif de gradins escamotables, mais l'innovation ne s'arrête pas là. Bernard Arnault veut avoir une scène réversible pour pouvoir tourner la scène vers l'extérieur et faire ainsi des concerts en plein air avec une jauge de 1000 places dans une sorte de théâtre de verdure. L'acousticien n'a pas encore été choisi, mais on imagine déjà que Yasuhisa Toyota pourrait être du projet, qui est l'acousticien chéri de Franck Guéry. À la manœuvre sur ce projet, on retrouve aussi Jean-Paul Clavry, le conseiller culture de Bernard Arnault.
Et on en sait déjà plus sur la programmation de cette salle, Antoine ?
Bernard Arnault veut rester dans des concerts événements. Il y aurait environ 20 de concerts par saison, dans un esprit proche d'un festival comme les Proms de Londres, notamment avec la possibilité du plein air. L'idée serait aussi de pouvoir donner des grands concerts en écho aux expositions de la Fondation. Cela aurait donc pu être du Scriabin ou du Stravinsky avec l'exposition Tchoukine qui a fermé ses portes il y a quelques semaines. Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de cette salle va créer encore plus de concurrence dans le paysage musical de l'Ouest parisien, car dans quelques semaines va ouvrir un nouvel auditorium sur l'île Seguin, la scène musicale, sans oublier bien sûr l'auditorium rénové de la Maison de la Radio. Y aura-t-il suffisamment de public ? Force est en tout cas de constater que la scène musicale parisienne se divise désormais entre le Nord-Est, avec la Philharmonie et la Cité de la Musique, et d'autre part le Grand Ouest, aux Parisiens et Franciliens de choisir de quel côté ils iront.
Merci Antoine Pecker. Cette chronique est à réentendre sur francemusique.fr. On vous retrouve demain Antoine.
Bonne journée. Demain, bonne journée.
Saskia Deville, la matinale, France Musique.
J'ai 2 amants, c'est beaucoup mieux, car je fais croire à chacun d'eux que l'autre est le monsieur sérieux. Mon Dieu, que c'est bête, les hommes, ils me donnent la même somme, exactement par mois, et je fais croire à chacun d'eux que l'autre m'a donné le double chaque fois. Et ma foi, ils me croient tous les deux. Je ne sais pas comment nous sommes, nous sommes, nous sommes, mais mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme, un homme, mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, vous pensez de... Un seul amant, c'est ennuyeux, c'est monotone et soupçonneux, tandis que deux, c'est vraiment mieux. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, on les ferait marcher sur la tête facilement. Si par malheur il n'avait pas à cet endroit précis des ramures de bois qui leur vont et leur font un beau front ombrageux. Je ne sais pas comment nous sommes, mais mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme, un homme. Mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, vous pensez de...
J'ai deux amants, un extrait de L'amour masqué d'André Messager avec Jolie Fuchs, qui est notre invité ce matin, l'Orchestre National de Lille, Samuel Jean à la direction. Un extrait de votre disque Yes, qui est sorti chez Deutsche Grammophon en 2015. Un rôle, Elle, de L'amour masqué de Messager, qui a été l'un de vos premiers rôles, Jolie Fuchs.
Mais oui, c'était quand j'étais au conservatoire.
En 2009.
Je sais plus quelle année c'était. Si vous le dites, voilà.
Vous étiez encore au conservatoire. Voilà. En avant-dernière année, si je dis pas de
bêtises. C'est ça, waouh. Et donc, un des projets de l'année, mis en scène par Emmanuel Cordoliani, était L'amour masqué. Donc, j'avais joué elle.
Un bon souvenir.
Beaucoup de plaisir.
De cette production.
Ah oui, puis, en plus, c'était avec un de mes amis qui est resté un ami très proche par la suite. Donc, du coup, c'est des très bons souvenirs.
Vous faites beaucoup de choses différentes, hein, Jolie Fuchs. Vous avez même fait du jazz et de la chanson avant de vous lancer dans l'opéra.
Oui, bon, j'étais jeune.
Vous avez hésité un temps à faire de la chanson plutôt que de l'art lyrique?
En fait, la question se pose un peu différemment, c'est-à-dire que même de l'art lyrique, je me suis pas dit je vais faire ça, donc j'ai pas vraiment hésité. Il y a jamais eu un moment où je me suis dit est-ce que je dois faire de l'art lyrique ou de la chanson. Mais par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'ai commencé les cours de chant lyrique, il a fallu que je me dise bon, allez, je me calme un peu sur les concerts le soir de chansons pour me concentrer sur ma technique vocale lyrique.
Si vous aviez suivi le chemin de la chanson française, justement, quel type de chanteuse seriez-vous aujourd'hui, Jolie Fuchs?
Le type de chanteuse, je pense que je ne serais pas une chanteuse différente. Je chanterais des choses différentes, mais je pense que je serais la même chanteuse.
Qu'est-ce que vous chanteriez, par exemple?
Mes compositions.
Et on est dans quel style?
C'est de la chanson française, je ne sais pas comment on appelle ça, de la variété, mais de la chanson plutôt à texte.
Vous écrivez encore aujourd'hui?
Non, parce que maintenant je suis heureuse et que, en fait, ça ne m'inspire pas beaucoup de bonheur.
Parce que vous étiez malheureuse par le passé, j'ai du fond.
Oui, quand on est jeune, on se pose plein de questions. Quand on est ado, oui, il y avait des grosses périodes de doute.
Est-ce que vous aimez aller là où on ne vous attend pas, Jolie Fuchs?
Par la force des choses, je dirais oui, mais c'est pas le but. J'aime aller où je ne m'attends pas moi-même, je crois, surtout.
Il faut faire une certaine confiance à sa voix.
Oui. Il faut, effectivement, la clé de la liberté, c'est d'avoir une bonne base technique, une bonne base, une bonne connaissance de son instrument.
Vous abordez des répertoires différents, hein, baroque, classique, opérette. L'opéra contemporain aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas envie de vous spécialiser dans un répertoire ou est-ce que ça vous semble impossible?
J'ai aucune envie, ça c'est sûr, de me spécialiser. Et puis la question s'est jamais vraiment posée puisque les offres que je reçois sont de toute manière très variées. Donc par la force des choses, j'ai la chance de ne pas avoir et de ne pas devoir me spécialiser. Et tant mieux.
Et le passage entre les répertoires est facile pour vous?
Oui, je me pose pas la question. C'est toujours quand il y a le plaisir. J'ai l'habitude de dire quand il y a le plaisir, il y a pas de difficulté.
En 2014, vous étiez sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées à Paris avec le Cercle de l'Harmonie, Jérémy Rohrer, Denis Podalydès à la mise en scène, dans la Clémence de Titus de Mozart. Je vous propose à 8h21 d'en entendre un extrait. Vous étiez Servilia. Saltro che lacrime, rien que des larmes, l'air de Servilia, de la Clémence de Titus. Et oui, vous êtes heureuse, Julie Fuchs, mais parfois vous chantez des choses un petit peu plus tristes. Mozart, la Clémence de Titus, Mozart, un indispensable pour vous ?
Ah, complètement. Un indispensable en tant que chanteuse et en tant qu'auditrice, en tant que spectatrice.
Qu'est-ce qui vous plaît chez ce compositeur ?
Alors, c'est peut-être dû à mon parcours, c'est-à-dire que j'ai dans mes premières années de chant, j'ai beaucoup chanté Mozart. J'avais un professeur qui était un grand fan et spécialiste, et donc j'ai beaucoup chanté Mozart. Donc peut-être que c'est dû aussi à ça, mais je ne crois pas que ce soit seulement ça. Il y a quelque chose d'instantané quand je suis en contact avec la musique de Mozart, qu'elle soit d'ailleurs que ce soit une musique enlevée ou plutôt triste. Enfin, ça me rend heureuse. J'ai l'impression que ça me traverse et que ça me fait du bien, quoi. Ça me réharmonise.
Et vous retrouverez Mozart et Jérémy Rorer aussi d'ailleurs cet été au Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence. Vous chanterez Zerlina dans Don Giovanni de Mozart. Vous l'aviez déjà chanté avant?
Et non, c'est la première fois que je vais chanter Zerlina. Et je suis très contente parce que ça, je trouve que c'est un rôle qui a de très belles pages. Et puis voilà. Et puis c'est un rôle aussi qui, je pense, il faut que je le fasse maintenant parce qu'après je passerai peut-être à Donna Anna. Et je suis très contente de le faire maintenant et à Aix-en-Provence où j'ai mes petites habitudes et où j'adore passer l'été. Donc c'est une bonne combinaison.
Quel rapport entretenez-vous avec votre voix, Julie Fuchs?
Ouh là là.
Sujet sensible.
Non, mais bon, quel rapport j'entretiens avec ma voix? Il est en constante évolution, ce rapport, en fait. Puis ça dépend des jours, et puis voilà. Mais
est-ce
j'aime
que vous la protéger, surprotéger?
Non, mais c'est vrai que je suis plus gentille avec elle depuis quelque temps.
Qu'est-ce qui a
C'est-à-dire qu'avant, j'étais comme une espèce de lutte. Où je me disais, elle va suivre, ça va, il faut qu'elle soit là, il faut que. Et maintenant, je suis plus en, j'essaie d'être plus en osmose avec, c'est-à-dire me dire ça fait partie de moi et j'en prends soin comme je prends soin de moi et des choses que j'aime.
Il y a eu des éléments déclencheurs pour que ce changement arrive.
Il y a eu des éléments. Ça m'est arrivé de tomber malade, comme tout le monde, de malgré cela chanter pour honorer mes contrats et certaines attentes. Et puis, c'est pas bon pour la voix. Donc après, il faut s'en remettre. On met longtemps. Bon, des choses comme ça qui ont fait que je me suis dit, je veux pas imposer ça. En fait, je veux pas imposer ça à mon corps, à ma voix. Je veux respecter quand je suis pas bien vocalement, je ne dois pas chanter tout simplement. Et je remercie les gens qui comprennent ça et qui n'en veulent pas aux chanteurs parce que c'est une souffrance pour nous de devoir annuler. Même si tout le monde nous dit mais si on n'entend rien, tout va bien. Nous, on sait très bien ce qui se passe en nous et si on annule, c'est pas du tout de gaieté de cœur.
Vous en parlez régulièrement avec vos collègues chanteurs de ce problème-là, Julie Fuchs?
Oui, on en parle beaucoup. C'est toujours un grand stress quand on a quelqu'un de malade dans une production et on est tous souvent concernés. On s'entraide, on se donne des conseils. Alors toi, tu fais quoi? Du curcuma, du gingembre, de l'érysimole,
toutes les recettes.
C'est important de s'en parler entre nous. Si on s'en parle pas entre nous, qui on en parle?
Tout à l'heure, vous parliez de ce rôle de Zerlina en évoquant « Ah mais après je ferai bien Donna Anna ». Je pense que vous rêvez d'une Traviata.
Ah oui, c'est sûr que plus je rêve plus d'une Traviata que d'une Donna Anna. Oui, mais parce que aussi le personnage, c'est formidable d'être dans une même soirée trois femmes différentes.
Et d'autres rôles ne vous offrent pas cette diversité-là?
Non, mais il y a d'autres rôles que j'adorerais faire. Il y a Mélisande, Cléopâtre, Loulou... Blanche de la Force, plein d'autres rôles. Ouais.
Je pense que vous aimez beaucoup Nathalie Dessay.
Ah bah oui.
Je vous propose de l'entendre dans cet air de la Traviata de Giuseppe Verdi. Folie, folie.
Oh!
Nathalie Dessay, Violetta dans la Traviata de Giuseppe Verdi avec le concerto Colnevino Pido à la direction. Un air extrêmement difficile à chanter aussi, Julie Fonks, vous vous entraînez régulièrement.
Il paraît, oui, qu'il est difficile. J'ai dû le chanter 2-3 fois, pas plus, parce que je garde...
À la maison.
Voilà, exactement.
Concert privé.
Voilà.
Vous êtes actuellement Esther dans l'opéra Trompe-la-Mort de Luca Francesconi au Palais Garnier à Paris. Alors l'opéra de Paris, c'est Bastille, c'est Garnier, mais c'est aussi la troisième, c'est encore mieux, la troisième scène. Mais qui connaît vraiment cette troisième scène ? C'est un projet qui a été lancé en septembre 2015 par l'opéra de Paris. Il s'agit d'un site internet ou plutôt d'une plateforme de vidéos en ligne qui regroupe des courts-métrages 4 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de plongée dans l'univers du ballet, du travail du corps, de la voix aussi. Une réécriture d'Othello ou encore une soirée mère-fils devant Médée. En tout, une trentaine de films y sont hébergés. Des œuvres originales et à part entière offrant un regard inédit sur le monde de l'opéra. C'est en tout cas ce que nous dit le projet sur le site internet. Bonjour Bénédicte Robin.
Bonjour Saskia, bonjour à tous.
Vous êtes plongée pour nous dans cette troisième scène.
Ah ouais, ce qui est frappant dans cette troisième scène, c'est le paradoxe qu'elle incarne par essence. Le spectacle vivant qui plonge dans le virtuel, la scène 2.0 qui utilise les codes du web, site internet, plateforme de diffusion YouTube, l'application pour téléphone portable, page Facebook où se joue l'autopromotion des réalisations. Tout est internet, gratuit, à disposition. On est tellement loin de la réservation de son siège, de la file d'attente, des applaudissements et du rideau qui se lève. Et ça, ça a séduit Fanny Ardant, l'actrice, réalisatrice et metteur en scène, signe un court-métrage pour troisième scène dont la mise en ligne est prévu le 26 avril.
Je pense que c'est comme des bouteilles à la mer. Elles arrivent sur le rivage, elles n'arrivent pas. Quand vous jetez la bouteille, vous n'allez pas aller visiter toutes les plages. Il y aura un jour quelqu'un de Tombouctou qui dira « Ah, au fait, j'ai vu ça, j'ai lu la bouteille, ce qu'il y avait dans la bouteille. » Eh bien, c'est le même phénomène sur le net. Dans une époque où on dit toujours « les meilleures ventes de l'année, les meilleurs trucs », eh bien, ça, on ne sait pas. On ne saura jamais. Vous ne trouvez pas que c'est bien ?
On ne peut peut-être pas savoir qui regarde, mais peut-être combien, Bénédicte ?
Mais oui, exactement. Écoutez, la réponse de Stéphane Lissner à cette question, le directeur de l'Opéra de Paris.
On a à peu près 1 800 000 vues, donc pour un démarrage, ça fait bien passer.
Mais là, Stéphane Lissner additionne toutes les vues de tous les films depuis un an et demi. Dans le détail, un seul dépasse 600 000 vues, d'autres les 100 000, beaucoup en font que quelques milliers. Mais ce n'est qu'un début pour le directeur de l'Opéra de Paris.
C'est un public qui rencontre des artistes qui, eux, n'ont pas vocation à travailler à l'Opéra de Paris. Un public qui, a priori, n'est pas un public demandeur de place pour aller écouter de l'opéra ou assister à du ballet. Et ça, je pense que tout d'un coup, l'opéra se présente autrement, d'une façon plus moderne, plus accessible. Et c'est un premier pas, mais ça va changer, je crois, radicalement dans les prochaines années, le regard que les gens vont porter sur l'opéra.
Grâce à des noms de plus en plus grand public aussi, vous entendez ici la musique du film Othello d'Abdelmalik. On a entendu Fanny Ardant, Mathieu Amalric, Bret Easton Ellis, Bertrand Bonello, Nathalie Baye, Vincent De Dienne, chacun réalisant ou interprétant une œuvre à part entière qui n'a pas forcément vocation à attirer de nouveaux publics vers Bastille ou Garnier, mais d'en être une fenêtre à côté. Et d'ailleurs, même dans son financement, cette troisième scène est à côté, souligne Stéphane Lissner.
Aujourd'hui, trois quarts de ce budget est financé par le mécénat, c'est-à-dire à peu près 450 000 à 500 000 euros pour un budget autour de 700 000 euros. Il n'est pas question que l'opéra finance cette opération seule, parce que ce n'est pas la vocation première de produire de ces films.
Vous disiez le chiffre global, mais est-ce qu'en moyenne, pour un film, vous pouvez dire le budget que ça représente ?
Prenons par exemple le film de Bret Easton Ellis, la Figaro. Nous, on a investi, je crois, à peu près 30 000 ou 35 000 euros, et lui, il a investi plus du double. Ce qui est intéressant, c'est que plus on arrive à toucher des grands cinéastes, des gens comme Abdelmalik ou comme Bonello, par exemple, plus évidemment, eux sont porteurs aussi de moyens. Il peut y avoir du partenariat et on n'est pas tout seul, on est rarement seul. Et donc, ça nous permet aussi d'être de plus en plus ambitieux. C'est ce qui se passe d'ailleurs depuis le début.
Avec un rythme plutôt soutenu, un par mois en moyenne et même deux en avril, Sarah Winchester de Bertrand Bonello le 5 et Magie Noire de Fanny Ardant le 25 avril.
Et plus de détails retrouvés sur francemusique.fr et évidemment sur le site de l'Opéra de Paris, onglet 3e scène. Merci beaucoup. Bénédicte Robin, Julie Fuchs, vous avez vu certaines de ces vidéos ? Vous avez
oui,
été vous connecter sur cette plateforme de la troisième scène ?
Il me semble avoir vu le... Alors je ne sais plus le titre exact, mais le... Yucali, je crois, de Barbara Hannigan.
Ça vous plaît, ce genre de démarche?
Bah oui, je trouve ça
intéressant.
Moi, je trouve ça très intéressant de réfléchir, en tout cas, à comment toucher un autre public, un public différent. Je trouve que, après, au niveau de la diffusion, je sais pas comment, voilà, j'ai eu les chiffres, mais j'espère qu'il y aura plus de monde qui va accéder, ouais.
Voilà, ce serait bien que ce genre d'initiative permette d'ouvrir plus les portes de l'opéra. Vous avez fait vos débuts à l'Opéra de Paris en 2015, au Palais Garnier, dans Platé Drameau. Ça représente quoi, cette maison, pour une jeune chanteuse française, Julie Fuchs?
Bah, c'est incroyable, cette maison, d'abord, déjà pour la maison, pour le lieu. C'est extrêmement émouvant de chanter là et de venir...
Pourquoi?
Quand je dis chanter là, c'est même pas forcément d'être sur scène en spectacle, parce que là, on s'en rend plus compte, ça reste un plateau de théâtre, mais de venir là tous les jours, travailler, c'est notre lieu de travail, quoi. C'est
l'infrastructure autour.
Le lieu, le plafond, les murs, l'énergie qu'il y a dans cet endroit, c'est
et puis des murs chargés d'histoire.
Voilà,
aussi.
C'est ça. Oui, on se sent faire partie de quelque chose, d'un héritage, c'est précieux pour une jeune chanteuse d'avoir une expérience dans ce lieu.
Vous retrouvez ces mêmes sensations quand vous chantez ailleurs, Julie Fuchs?
Pas forcément exactement les mêmes, parce que chaque maison est différente, chaque ville est différente aussi. Après, il y a le lieu, il y a aussi les équipes qui sont dans ce lieu et qui changent.
Et c'est vrai que je pense que vous aimez énormément travailler en équipe. L'ambiance sur le plateau, pourvu qu'elle soit bonne, c'est très important pour vous.
Ah ouais, moi je trouve que c'est une des caractéristiques de ce métier, c'est de travailler en groupe.
C'est pas toujours simple?
Non, mais c'est toujours très intéressant.
De quelle manière?
Ben, de s'adapter, de découvrir plein de personnalités différentes, et de culture aussi, parce qu'on travaille souvent avec des gens qui viennent de plein de pays différents.
En tout cas, l'ambiance sur le plateau de Trompe la mort de Luca Francesconi, si j'en crois le teaser qui a été mis en ligne, donc l'aperçu de la production qui a été mis en ligne sur le site de l'Opéra de Paris, l'ambiance a l'air plutôt pas mal.
Oui, non, c'est pas des blagues, c'est vraiment, c'est vraiment assez exceptionnel l'ambiance qu'il y a eu pendant tout ce processus de création.
Je vous propose de se plonger dans le sujet en écoutant un premier extrait de Trompe la mort. Je vais préciser que c'est un extrait de la pré-générale qui nous a été gentiment prêté pour pouvoir vous entendre.
Moi, je vais m'entendre alors.
Dans le rôle d'Esther.
Maison, on était plus
Un extrait du premier acte de Trompe-la-Mort de Luca Francesconi, un extrait de la pré-générale avec vous, Julie Fuchs. L'orchestre de l'Opéra National de Paris et Susanna Melchi à la direction. Julie Fuchs, soprano, mezzo, alto. C'est assez bas.
C'est une bonne question, oui, quand on finalement entend la partition. Je suis bel et bien soprano, mais effectivement la partition était assez grave.
Je crois que vous avez travaillé avec Luca Francesconi
sur
la partition.
Quand j'ai reçu la partition, j'ai tout de suite mis le doigt sur le fait que la tessiture était assez grave. Et le problème n'est pas les notes graves, le problème est d'être tout le temps dans la zone grave de ma voix. Et surtout, à mon sens, le registre aigu, ou médium, qui est quand même pour une soprano un peu plus intéressant que son registre grave, et surtout celui où elle est plus à l'aise, n'était pas assez utilisé. Donc j'en ai fait part à Luca Francesconi, et puis il a bien voulu me réécrire la dernière scène, et il s'est bien vengé.
Pourquoi c'est encore plus difficile?
Car maintenant c'est très aigu.
Voilà. Ça vous apprendra.
Voilà.
Pour votre première création de rôle à l'opéra, Julie Fuchs, ça doit être un sacré moment.
Oui, j'étais très très heureuse de savoir que j'allais faire partie d'une création. En plus, dans mon pays, à partir d'un auteur de mon pays, je me dis, c'est un beau projet de créer ce rôle-là, en plus, qui est un magnifique rôle.
Trompe-la-Mort retrace le parcours sulfureux de Jean Vautrin, un des personnages centraux de la comédie humaine de Balzac, Trompe-la-Mort, de son surnom. Francesconi a écrit lui-même le livret de cet opéra, en français.
Eh oui.
Une aubaine pour vous qui adorez chanter dans votre langue.
Ouais, et puis en plus, on a une équipe pratiquement, à part une chanteuse, je crois, exclusivement française. Donc, avec une équipe comme ça, c'est assez... C'est un bon coup réussi.
Voilà, effectivement, il y a Laurent Naouri, ouais, qui interprète Trompe-la-Mort. Et puis Cyril Dubois, Marc Labonnette, Philippe Talbot au casting. Vous incarnez Esther Gosbeck. Qui est-elle?
Alors Esther, c'est une courtisane qui a été un peu élevée comme elle pouvait. Et qui tombe amoureuse de Lucien, qui connaît un grand bouleversement. Elle essaye de se suicider, puis finalement elle est récupérée par justement Jacques Vautrin déguisé en abbé espagnol.
C'est simple.
Bon, je vais essayer de résumer. Déjà qu'en deux heures d'opéra, il y a beaucoup d'ellipses et de synthèse, donc là ça va être encore pire, mais c'est un personnage en tout cas qui est très pur finalement, alors dans l'opéra on passe sur le fait, sur tout son passage au couvent et sa dévotion, sa foi, etc. Mais en tout cas c'est un personnage qui évolue, mais qui malheureusement est quand même victime dans la pièce.
C'est un petit peu finalement comme Violetta dans la Traviata.
Mais c'est un peu ça. Et c'est
héroïne,
voilà.
Victime.
Et j'avoue que c'est un petit peu comme ça que Luca Francesconi me l'a vendu.
Ah,
il m'a dit ça va être ta première Traviata. J'ai dit bon d'accord.
Est-ce que Esther, c'est un personnage qu'on pourrait croiser dans la rue aujourd'hui?
C'est une bonne question. Bon, j'imagine qu'il y a forcément un peu d'Esther dans plein de femmes.
Vous avez travaillé avec le metteur en scène Guy Cassier. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Julie Fuchs, d'un metteur en scène?
Eh bien, d'abord, je dirais que qu'il ait une idée précise de ce qu'il veut, qu'il ait du respect pour tous les corps de métier liés à l'opéra, et puis s'il peut me permettre de me dépasser, d'aller dans des zones où je n'ai pas encore été, c'est encore mieux.
Et elles ressemblent à quoi ces zones, Julie Fuchs?
Par exemple, là, sur ce projet-là, je vais vous avouer que c'est très épuré. Mon personnage, et comme on l'a entendu dans la musique, bon, c'est pas tout le temps comme ça, mais mon personnage est souvent dans des atmosphères très douces, très planantes, flottantes, etc. Et mon personnage, vu que c'est quand même une victime, elle est assez passive, même si elle reste forte parce qu'elle fait face à tout ça sans s'écrouler. Mais malgré tout, elle subit un peu. Et par conséquent, je dois épurer mon jeu aussi beaucoup. Et ça,
c'est difficile.
J'ai pas l'habitude.
Pourquoi on vous donne généralement plus des rôles plus,
bah oui, j'ai des rôles plus imposants, plus énergiques, plus voilà, des Suzanne, des filles du régiment. C'est quand même un peu à l'opposé de ce genre de rôle. Voilà. Mais c'est très intéressant et je me découvre.
On va écouter un deuxième extrait de ce Trompe la mort, un extrait du premier acte, toujours enregistré à la pré-générale, c'est quand même important de le préciser. Il est 8h46 sur France Musique. Extrait du premier acte de Trompe la mort de Luca Francesconi, un extrait de la pré-générale avec, ici on a demandé tous vos collègues, hein, Julie Fuchs.
Oui, ils sont pratiquement tous là.
Voilà,
ouais,
Cyril
ouais.
Dubois, Marc Labonnette, Philippe Tabou, Christian Elmer.
Superbe solo de Béatrice Soria-Monzone.
Absolument.
Dont l'aigu est très sollicité dans cette partition.
J'ai lu que Susanna Malki, donc, qui assure la direction musicale de l'orchestre de l'Opéra de Paris, elle a dit de Francesconi qu'il est un véritable compositeur de théâtre. Est-ce que vous partagez cette vision ?
C'est vrai que la première fois qu'on a entendu la partition, donc en lecture, ce qui m'a frappée, c'est que chaque personnage était extrêmement caractérisé musicalement.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est-à-dire que, par exemple, Lucien, qui est le dandy, l'amoureux...
incarné par Cyril Dubois.
Voilà. A beaucoup de phrases très douces, avec des mélismes très doux, etc. C'est aussi mon cas. Le cas d'Esther, et Béatrice Soria-Monzone, la comtesse de Sérisy, par exemple, elle a vraiment des sauts d'octave tout le temps, des choses très cassées, avec un tempo rapide, voilà, des choses comme ça qui caractérisent beaucoup le baron, par exemple, il a souvent des rythmes un petit peu grossiers qui caractérisent son personnage d'Alsacien, voilà.
Finalement, Julie Fuchs, c'est prima la parole et dopo la musica pour vous. D'abord le texte et puis la musique.
Bon, ça dépend. En tout cas, j'aime bien me dire que les deux sont possibles, qu'il faut penser aux deux, quoi.
On va se quitter avec votre choix musical ce matin, Julie Fuchs. Let's do it, Cole Porter.
upper sets. Do it, Lithuanians, and let's do it. Let's do it. Let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it. Let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it. Let's fall in love. Cold Cape Cod clams, against their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks him, I know. Why ask if Shad do it? Way to bring me Shad and Row in shallow shows. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it. Let's fall.
Let's do it, let's fall in love par la grande Ella Fitzgerald, thème de Cole Porter. Votre choix ce matin, Julie Fuchs. C'est tellement agréable d'écouter ça le matin.
Bah oui, mais même le soir, ça
m'a même le soir, finalement, à n'importe quelle heure. C'est très très bien. Il est 8h54 minutes. Bonjour Monsieur Hervé.
Bonjour Madame Saskia. Il y a des jours, vous savez, tout va bien. Et on se dit pétard, c'est pas normal. Départ en tournée, tout le monde est à l'heure, dans la bonne gare, car il faut rappeler que dans chaque troupe, il y a au moins une ou deux personnes qui sont les bêtes noires des chargés de production responsables de la tournée. Des genres d'ovnis qui descendent fumer sur le quai au moment où les portes se ferment, alors qu'il n'y a qu'un seul train par jour pour être à l'heure au concert au fin fond de l'Allemagne, évidemment en ayant laissé leurs papiers dans le train, ou ceux que le chargé de production appelle chez lui ou à l'hôtel afin de le réveiller, être sûr de le voir monter dans l'avion, ou quelqu'un qui oublie costume et instruments dans l'autocar du retour, bref, des angoissants. Mais ce jour-là, tout allait bien. Le TGV part et arrive à l'heure, le contrôleur ne sent pas la transpiration, les chambres d'hôtel sont toutes prêtes, les petits restos vous servent rapidement avant la répétition une nourriture délicieuse et on peut payer séparément alors qu'on est une tablée de 25 sans que le serveur soit désagréable ou que le patron fasse de l'érythème fessier parce qu'il est obligé de sortir sa calculette. La fosse est prête, la salle de l'opéra très jolie, le personnel technique est ravi que l'on soit là, pas de malade chez les danseurs, les chanteurs ou les acteurs. L'ouvrage est long, costaud, mais beau et étonnant, et le public fait en général 8 à 10 rappels tous les soirs. Tout va bien, Madame Saskia. Ce n'est pas possible, il y a bien un projo qui va prendre feu, une danseuse qui va tomber dans la fosse ou un instrument qui va se fendre en deux. Eh ben non, rien de rien, calme plat, mieux que ça, Madame Saskia, nous sommes à Avignon, la cité des papes, et il y fait beau. Et à propos de papes, voilà Raymond Dufaux, directeur de l'Opéra d'Avignon depuis... Oulala. Et depuis que M. Dufaux dirige un théâtre, il va faire, comme chaque fois que des artistes qu'il a invités dans sa maison s'installent pour la première répétition, il vient saluer et remercier tout le monde avec sa voix de stentor et son accent provençal. Il tient à avoir un mot pour chacun, va assister intégralement aux répétitions, conseiller, aider, suggérer, rassurer, engueuler, bref, pousser tout le monde, fausse plateau, technicien et artiste, à prendre sa place ou sa responsabilité dans le spectacle. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais ce genre de patron à l'ancienne, on n'en voit plus des masses. Quand je pense au nombre de productions qu'il a montées, aux chanteurs qu'il a trouvés et lancés, aux embûches administratives qu'il a vaincues, aux politiques qu'il a dû convaincre, à l'usure qui pourrait être la sienne, on se dit que cet homme pourrait être blasé et fatigué. Eh ben non, rien du tout, Madame Saskia. Il est là ce soir comme à son premier spectacle. Les gars, il faut que ça tourne, il y a du monde ce soir. Ben, je sais pas pourquoi il précise qu'il y a du monde ce soir, car depuis 50 ans que M. Dufaux produise des spectacles, les salles sont pleines tous les soirs. Je savais bien qu'il y aurait une triste nouvelle dans ce fatras de bonheur. En juin, Raymond Dufaux a décidé de prendre sa retraite. Décidément, les papes n'en font plus qu'à leur tête, après Benoît XVI parti cultiver les salades au Vatican. Raymond Ier qui décide de nous laisser tomber. Non mais des fois, et nous alors? On serait au Japon, cet homme-là aurait été déclaré trésor national. Mais nous sommes en Provence, Madame Saskia. Alors le prochain, Madame Saskia, pour faire la crèche, n'oubliez pas d'acheter le nouveau Santon de Provence, tout frais démoulé et peint. Le beau Raymond, directeur de l'Opéra d'Avignon. Pensez-y, Madame Saskia.
C'est promis, Hervé Niquet. On réécoute cette chronique sur francemusique.fr. À la semaine prochaine.
À bientôt.
Et Julie Fuchs, vous allez d'ailleurs chanter à cette
Mais
occasion.
Oui. Je crois que c'est le 16 juin, si je ne me trompe pas, pour le gala d'adieu à Raymond Dufaux, Monsieur Raymond Dufaux.
Eh bien voilà, le monde est petit. En tout cas, Trompe la mort de Luca Francesconi, c'est à l'affiche de l'Opéra Garni jusqu'au 5 avril. Et puis, on va citer d'autres dates de concerts à venir, Julie Fuchs. Le 15 avril, dans le cadre du Festival de Pâques de Deauville. Le 22 avril, au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Le 10 mai à Lille. Le 12 mai au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et enfin, cet été, du 6 au 21 juillet, au Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Merci beaucoup, Julie Fuchs, d'être venue nous voir ce matin.
Merci à
vous. Je vous souhaite une très belle journée.
Vous de même.
Vous aimez l'opéra ? Écoutez France Musique le dimanche de 20h à minuit. Cette semaine, le retour d'Ulysse de Monteverdi est à l'affiche. Une version mise en scène par Mariam Clément, enregistrée au Théâtre des Champs-Élysées. Rolando Villazone et Magdalena Cogena, Ulysse et Pénélope, forment un couple brûlant sous la direction d'Emmanuel Haïm. Dimanche à l'opéra, une émission de Judith Chen sur France Musique. Branchez-vous.
Lundi 27 mars, France Musique célèbre le violoncelliste Mstislav Rostropovitch à l'occasion de la sortie d'un grand coffret. Il aurait fêté ses 90 printemps. Redécouvrez ce farouche défenseur de la liberté, l'un des plus grands musiciens du XXe siècle, insurpassable et créateur infatigable. Une journée de programme, témoignages avec notamment le violoncelliste Frédéric Lodéon, de grands concerts d'archives, en savoir plus et à réécouter sur francemusique.fr.
Bonjour Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier.
Bonjour Saskia.
Bonjour. Vous allez bien ?
Oui.
Ah, il y a un peu de soleil, donc ça va.
Oui, c'est pas mal, hein. On a vu là, à travers la fenêtre du studio.
Ah oui, puis vous rayonnez jusqu'à nous. je suis ébloui.
Je rougis.
Mais qu'est-ce qu'il a en ce moment ?
Ah, vous êtes jalouse,
Émilie ? Ah mais oui, mais je vais trouver quelqu'un d'autre. Je suis sûre à la radio, je vais trouver. Strozzi et Monteverdi, c'est de la musique, le premier baroque italien aujourd'hui, au cœur de notre émission.
Merveilleux, on vous retrouve pour En Piste dans quelques minutes. Merci à Jean-Charles Dieval, Pauline Boisaubert, Marjolaine Portier-Kaltenmack, Xavier Atto, Jean-Paul Lafargesse et Jean-François Souvili. Jeudi 23 mars, il est 9h.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.